Life Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Life Radio. Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Parlons-en ce matin. Seri Soka, représentant local de la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique, FIDOP, est notre invité ce matin. Bonjour Monsieur Seri Soka, bienvenue.
Bonjour monsieur.
Comment allez-vous ce matin ?
Très bien, par la grâce de
Dieu. Parfait. La situation des subsahariens en général et celle des Ivoiriens en particulier est bien connue pour avoir été relayée en boucle par plusieurs médias. Là où nous nous parlons ce matin, avez-vous des nouvelles de ces compatriotes, de nos compatriotes en Tunisie ?
Merci beaucoup, monsieur. Il faut dire que, avant tout propos, comme je le disais hier sur une chaîne, je suis pas venu en Côte d'Ivoire pour mettre le feu sur l'huile. Je suis venu pour rencontrer les autorités ivoiriennes et donner toutes les nouvelles aux Ivoiriens par rapport à la situation qui se passe en Tunisie. Il faut dire que la situation est très grave. Et nous avons des compatriotes qui dorment dans les champs d'olives. Des compatriotes qui sont chassés de leur maison. Aujourd'hui, il est carrément interdit pour le subsaharien d'emprunter un véhicule commun en Tunisie.
Et donc,
nous avons des témoignages des femmes enceintes qui sont refusées dans les hôpitaux pour des soins parce qu'elles n'ont pas la carte de séjour. Et aujourd'hui, le subsaharien ne travaille plus en Tunisie. Donc, la situation est très grave aujourd'hui en Tunisie.
D'accord. Maintenant, je disais particulièrement, est-ce que vous avez des nouvelles, en tout cas de ceux qui ont été arrêtés ? C'est vrai qu'il nous a été rapporté que 300 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés. Depuis, à l'intérieur, forcément, sont inclus des Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que représentant du FIDOP, vous avez des nouvelles de ces personnes ou pas de nouvelles du tout ?
Ben, ces personnes, aujourd'hui, ils sont encore en prison. D'autres sont encore en prison. Et d'autres sont à la maison de Wadi, à la maison d'arrestation de Wadi, c'est un endroit où on met les subsahariens. Après avoir les jugés, après la prison, on les envoie là-bas et c'est encore eux qui payent eux-mêmes leur billet d'avion. Donc beaucoup sont aujourd'hui dans ces maisons que nous appelons, ce sont des maisons que des prisons, mais ils ont accès au téléphone. Donc ils appellent, on leur demande d'appeler leurs parents pour acheter les billets d'avion. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons presque 800 subsahariens. Et aujourd'hui, parmi ces 800 subsahariens, nous avons presque 500 Ivoiriens qui sont arrêtés. Et d'autres sont encore en prison, ils n'ont pas encore été jugés. D'autres ont été jugés et ces personnes-là aussi, on leur demande de rentrer chez eux au pays. Pourtant, ils n'ont pas accès à l'ambassade pour aller se faire enrôler pour retourner.
D'accord. Aujourd'hui, le ressenti qu'on a vu de l'extérieur, c'est que la société tunisienne, dans ses forces vives, dans ses composantes, s'est majoritairement désolidarisée du discours incendiaire du président Saïed. Les marches qu'on a vues ci et là, les déclarations de la société civile, de certaines organisations. Vu de l'intérieur, avez-vous ce même sentiment ou la réalité reste tout autre, vous, qui vivez en Tunisie ?
C'est une réalité. Depuis le 21 passé, vu le discours du président de la République tunisienne, nous sommes victimes de beaucoup de choses.
C'est ça.
Victimes de beaucoup de choses parce que nous-mêmes, on ne s'attendait pas vraiment à une telle réaction du président. Et aujourd'hui, vous savez, c'est une réalité. Ça fait 10 ans que je suis en Tunisie. Je suis résident. Je ne suis pas venu salir l'image de la Tunisie, mais c'est une réalité. Le peuple tunisien est un peuple qui ne sort pas beaucoup. Et donc,
est-ce qu'il s'est mobilisé, vu tout ce qui est en train de se passer là, actuellement, au niveau de la société civile, les communiqués qu'on a vus, etc.
Au niveau de la société civile, aujourd'hui, dans la ville d'Esfas, il y a eu des organisations de défense des droits de l'homme qui ont été arrêtées parce qu'ils sont allés soutenir des subsahariens. Il faut dire que, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une affaire qui est très grave parce que le peuple tunisien, il faut dire que tout a commencé avec un parti politique tunisien qui a lancé l'alerte en disant aux Tunisiens que la communauté subsaharienne, les Noirs, veulent prendre notre pays en otage. Ils sont partout dans les travaux, ils vendent la nourriture, ils font tout ce qu'ils veulent, ils vendent. Et ce parti-là a fait presque pendant plus d'une semaine des vidéos en arabe en disant.
C'est le parti ultranationaliste.
Voilà. Donc, et pour dire que après avoir mûrir déjà l'esprit de la population. Bon, pour quelqu'un qui est un bailleur, à qui la police demande de ne pas héberger un étranger quand il n'a pas la carte de séjour. Mm-hmm. Donc du coup, tout le monde est visé. Mm-hmm. On vous regarde, on vous chasse des travaux parce que vous n'avez pas la carte de séjour. Donc après le discours du président, mm-hmm. tout a déclenché. Et aujourd'hui, nous constatons que nos compatriotes sont dans la rue.
Mm. Armel Mendy, une question. Une seule question.
Pendant longtemps, vous viviez en Tunisie, les relations étaient plus ou moins bonnes. Alors, qu'est-ce qui crée cette situation-là, au fait ? C'est quoi l'élément déclencheur ?
Bon, l'élément déclencheur, c'est qu'ils disent que nous sommes nombreux sur le territoire.
Jusque-là, vous étiez nombreux, ça ne posait pas de problème. Oui, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, ils disent, ben, on ne veut pas ? On veut plus de vous.
Lorsque vous recevez un peuple et que les billets d'avion sont vendus et que la frontière, vous-même vous suivez votre frontière, que vous laissez les gens rentrer par le désert avec des business, et que le peuple ne s'attend pas, n'est pas préparé à un tel nombre de migrants, ça crée ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils estiment que nous sommes nombreux. Pourtant, ils savaient qu'on devait être nombreux. Parce qu'aujourd'hui, la Tunisie est devenue un passage par rapport à la Méditerranée.
Bien sûr.
Par rapport à la Libye.
Qui est aujourd'hui le flux de migrants. Et aujourd'hui, la traversée de la Méditerranée qui tue plus que le corona. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que chaque semaine, au moins 50 à 100 morts par semaine. Mmh. Donc, les Tunisiens, ils s'attendaient à ça. Donc, aujourd'hui, on nous dit que nous sommes nombreux. Mmh. Et la carte de séjour qui est aujourd'hui le problème même de ce que nous vivons. Parce que quelqu'un qui n'a pas de carte de séjour, aujourd'hui, en Tunisie, tu ne peux pas recevoir de l'argent de l'extérieur.
Dis donc.
Aujourd'hui, tu n'as pas la carte de séjour en Tunisie. D'abord, ça existait. Tu n'as pas droit à envoyer de l'argent à tes parents depuis la banque. Aujourd'hui, en Tunisie, tu n'as pas la carte de séjour, tu n'as pas droit à beaucoup de choses.
Mmh. Donc, Lim Begré.
Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui coince au niveau de la carte de séjour ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vous donnent pas la carte de séjour ?
La carte de séjour, c'est eux qui décident. Quand tu fais en Tunisie, pour avoir la carte de séjour, il faut être étudiant. Okay. Voilà comment aujourd'hui, nos frères subsahariens, ivoiriens qui sont là-bas, qui sont nombreux, qui n'ont pas les papiers, au lieu de revenir au pays, ils préfèrent se donner à la Méditerranée. Parce qu'en Tunisie, tu payes 20 000 francs, presque 20 000 francs par mois quand tu es sur le territoire. Mmh. Et les 20 000 francs par mois, tu les payes lorsque tu dois sortir du pays. Tu ne les payes pas pendant que tu es là. Donc si tu as fait 5 ans, tu as fait 8 ans, tu as fait 10 ans, tu as fait 3 ans, mais tu ne payes pas 20 000 francs par jour, le jour où tu veux sortir et que tu es malade, ou alors tu as des soucis parce que tu as envie de venir dans ton pays, tu ne peux pas parce que tu n'as pas la carte de séjour, parce que tu as la pénalité. Mmh. Donc tu préfères chercher un peu d'argent, de donner à la Méditerranée.
Mais en réalité, quelle activité les Ivoiriens font réellement là-bas ?
Les Ivoiriens, c'est eux aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui surpris de la relation du président de la République et de certains Tunisiens. Je le dis bien, certains Tunisiens. Parce qu'aujourd'hui, la communauté subsaharienne, pour ne pas dire la communauté ivoirienne, a participé ou participe au développement de la Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont partout. Dans les salons, dans les restaurants.
Mmh. Dans les garages, la main d'œuvre.
Mmh. Même aujourd'hui, la construction, les immeubles qui poussent aujourd'hui en Tunisie, pour tout ce qui se passe, les subsahariens, eux-mêmes le disent que les subsahariens, les Ivoiriens participent beaucoup parce qu'ils travaillent, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Mmh. Donc nous avons participé, nous avons travaillé. Et aujourd'hui, comme tout est fait, on nous dit que nous sommes nombreux. Mmh. Et voilà comment.
Monsieur Le Perpignan.
Moi, la question, c'est sur la carte de séjour. Mm-hmm. Vous étiez au courant qu'il fallait avoir carte de séjour pour être vraiment un peu minimum, un peu libre d'envoyer de l'argent, de récupérer de l'argent. Pourquoi vous ne faites pas la carte avant d'arriver en Tunisie ? Au lieu d'aller se mettre dedans et puis maintenant souffrir.
En Tunisie, quand tu arrives sur le territoire tunisien, tu as droit à 3 mois. Tu as 3 mois pour circuler librement. Mm. Après les 3 mois, il y a ce qu'on appelle la pénalité. Et la pénalité en Tunisie, pour avoir la carte de séjour, il faut être étudiant, il faut être un diplomate, il faut être un expatrié pour avoir la carte de séjour.
Et vous êtes informé au préalable ?
Non, la plupart des gens qui vont en Tunisie ne sont pas informés. Vous savez comment les gens vont en Tunisie aujourd'hui ? Parce que l'autre est là-bas, il te fait rêver, il te fait savoir qu'en Tunisie, tu peux t'en sortir. Voilà comment nos compatriotes se retrouvent là-bas aujourd'hui. Mmh. Donc quand ils arrivent et que celui-même qui t'accueille, il n'a pas la carte de séjour, il n'est pas résident. Qu'est-ce qu'il va te dire ? Et il va te dire aussi que quand tu déposes, tu n'aimes pas. Mmh. On ne te donne pas. Vous savez, il y a des gens qui déposent, même des étudiants aujourd'hui. L'association des étudiants ivoiriens, vous voyez les déclarations. Mmh. Ils déposent des cas de séjour, ils ont la provisoire, mais la définitive ne sort pas.
Parce qu'ils ont peur que vous restiez là-bas également voilà, voilà. après vos
parce
études.
Parce que quand tu as la définitive, tu as droit à beaucoup de choses.
Parfait. On va marquer une petite pause, maximum de 30 secondes, 45 secondes. Et puis on va aborder la dernière partie de notre causerie, Monsieur Seri Soka.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Monsieur Seri Soka, représentant local de la FIDOP en Tunisie, est notre invité ce matin avec lequel nous adressons cette question que vous connaissez. Voilà, on va parler de l'aspect humanitaire maintenant. Lors de l'arrestation de ces 300 ressortissants d'Afrique subsaharienne, certains enfants embarqués dont le contrôle ont été remis au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Où en est-on dans ce contexte avec la question humanitaire en Tunisie aujourd'hui, là où nous parlons ?
En ce qui concerne la question humanitaire, il faut dire aussi que c'est grave parce que notre compatriote, on n'est pas de nos compatriotes qui, aujourd'hui en Tunisie, pour les enfants qui sont nés là-bas et des enfants qui viennent de la Côte d'Ivoire qui vont, nous avons des crèches parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous ne parlons pas l'arabe. Donc nous avons nos sœurs ivoiriennes qui elles ont fait des crèches pour pouvoir enseigner à lire et écrire aux enfants. Vous savez que ces personnes-là aujourd'hui sont arrêtées. Et il y a même un couple marié légalement.
Bien sûr.
Ils avaient une crèche où ils apprenaient à lire et écrire.
C'est là-bas que les arrestations se sont faites.
Aujourd'hui, ils sont en prison. Les enfants, on ne sait même pas où les enfants sont. Le monsieur est arrêté, la dame est arrêtée. Vous voyez, parce qu'ils ont une crèche subsaharienne. Vous voyez. Et donc, autant, dans les écoles arabes, les écoles tunisiennes, on ne met pas l'accent sur ceux qui viennent d'arriver qui ne parlent pas l'arabe. Donc nos enfants, ils sont livrés à eux-mêmes, l'alphabétisation, ils savent même pas lire et écrire. Et en voulant chercher aujourd'hui une solution, nous constatons que nous sommes arrêtés. Donc la question humanitaire elle est très grave. Et même encore en Tunisie, les abus de pouvoir. Et je le dis, je répète aussi que je suis aussi président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Nous avons un siège, un local, où nous réceptionnons tous les Ivoiriens à chaque fois, quand ils viennent pour des situations. Donc, il faut dire que la situation est très grave. La question humanitaire...
Mais que fait le HCR dans tout ça, là-bas ? Parce que là, c'est vrai que des enfants leur ont été confiés.
Nous avons des compatriotes, qui ont même des quatre HCR qui ont été déchirés par les autorités. Les quatre HCR ne sont pas considérés. Si aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme, des organisations qui sont en Tunisie, n'ont pas la possibilité de défendre, n'est pas l'individu qui a une simple carte qui va se défendre. Vous voyez, monsieur Tano François, qui est le responsable de l'AIT la dernière fois, c'est un exemple que je cite, qui a la carte ACR, mais la carte a été déchirée par une autorité. Il était obligé de repartir au ACR pour pouvoir signaler cela. Donc, il y a trop de choses. Et comme je le dis, je ne suis pas venu mettre de l'huile sur le feu. Je suis venu dire à notre État, aux Ivoiriens, que la situation est grave. Il faut préparer le retour de ces personnes. Et quand ils viennent, comment est-ce qu'il faut les installer ? Et comment est-ce qu'il faut organiser leur retour ?
C'est la prochaine question, justement, avant que ne reprennent la parole les amis, qu'on ne boucle complètement cet entretien. L'État de Côte d'Ivoire a déboursé plus d'un milliard de nos francs pour faciliter le retour de ceux de nos compatriotes qui désirent entrer au bercail. 500 personnes sont partantes. Tout d'abord, quelle lecture vous en faites ? Et puis deux, comment se fera la réintégration de ces frères qui n'ont plus tout à fait le réflexe du pays ?
D'accord. Il faut d'abord saluer cette décision du gouvernement ivoirien. C'est une décision qui est salutaire. Mais en même temps, il faut aussi signaler cela en disant que 500 personnes, c'est insuffisant.
Okay.
C'est très insuffisant parce qu'aujourd'hui, avec l'équipe, puisque l'équipe, il y a eu une série de crises qui a été installée par les associations ivoiriennes qui travaillent, qui est en collaboration avec l'ambassade. Là, on nous signale déjà depuis hier que nous avons 1500 Ivoiriens qui sont inscrits. Donc, s'il y a 500 qu'on prend, les 1000, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Les 500 autres.
Et ce qui est encore grave, c'est qu'à l'intérieur, c'est-à-dire de la Tunisie, dans les villes, dans les villages, les Ivoiriens sont partout. Donc, et ceux-là sont empêchés de venir dans la capitale de la Tunis pour se faire enrôler à travers l'ambassade. Donc, nous avons deux fois le nombre de personnes.
À combien sont chiffrés à peu près
sont presque les 5 000 Ivoiriens. Presque 5 000 Ivoiriens sur le territoire.
5 000 Ivoiriens sur le territoire.
5 000 Ivoiriens sur le territoire. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, les téléphones ne font que crépiter parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les villages, dans les villes, et qui ont été chassés de leur maison. Parce que pour un Tunisien qui a aujourd'hui un Ivoirien dans sa maison, un subsaharien dans sa maison, il a une amende à payer avec la police. Mmh. Donc du coup, les propriétaires des maisons peuvent faire se libérer. Mmh. Parce que si tu dois...
Mais si les Ivoiriens sont en règle justement avec la loi...
Non, c'est pour ça qu'on parle de la carte de séjour. Mmh. Parce qu'ils ne te permettent pas d'avoir les papiers. Nous, on cherche les papiers. Et nous, moi, Dieu a fait grâce depuis 10 ans, j'ai les papiers. Parce que c'était encore bonbon dans le début. Donc, et quand tu as déjà les papiers une fois, deux fois, c'est facile qu'on renouvelle les papiers. Mais pour ceux qui n'ont jamais eu ces papiers, ils sont en situation irrégulière. Donc, du coup, il y a des abus de pouvoir parce que le propriétaire de la maison qui ne t'avise même pas, qui te dit un matin, il faut sortir de la maison parce que tu n'as pas les papiers. Mmh. Donc, moi, je ne veux pas avoir les problèmes avec la police, je ne veux pas être en prison et avoir une amende. Mmh. Celui qui t'emploie, nos soeurs qui travaillent dans les maisons, un bon matin, on lui dit, bon, ce n'est pas la peine que tu travailles parce que tu n'as pas les papiers, parce que c'est interdit pour quelqu'un de travailler. Mmh. Ou quelqu'un qui veut prendre le véhicule commun, on te dit que c'est interdit de prendre le véhicule commun parce que tu n'as pas les papiers. Donc, aujourd'hui, c'est une prison à ciel ouvert pour nos compatriotes. C'est pour ça que nous lançons le cri de guerre, pour dire que nous ne sommes pas venus mettre de l'huile sur le feu, mais nous sommes venus dire les réalités pour que l'État ivoirien essaie de prendre une décision le plus vite possible. Et parler réellement avec l'État tunisien. Mmh. L'ONU, nous interpellons l'Union européenne, l'Union africaine.
Mmh. Ça aussi, on va en parler en tout cas dans la toute dernière partie parce qu'il nous reste 3 minutes maximum.
Vous souhaitez que les Ivoiriens reviennent, que l'État réagisse, mais quel est le comportement de l'ambassade même là-bas déjà en Tunisie, la Côte d'Ivoire?
Là, il faut le dire où il faut. L'ambassade de Côte d'Ivoire, son excellent M. Sif Sabané, est en train de travailler avec son équipe pour pouvoir mettre vraiment les Ivoiriens dans de bonnes conditions pour qu'ils viennent. Mais le souci de l'ambassade, c'est quoi? C'est que, en réalité, nos ambassades dans les pays maghrébins, comme la Tunisie, n'ont pas cette possibilité, la main libre, de pouvoir aider vraiment les compatriotes. Parce que si tu veux, tu as une ambassade et que tu as X qui a été arrêté, qui est dans une situation, et qu'on te dit qu'il est dans une situation illégale parce qu'il n'a pas le droit d'être sur le territoire, parce qu'il n'est pas étudiant. Mm-hmm. Parce que la loi tunisienne ne reconnaît seulement que les étudiants.
Ça, c'est compliqué. Mm.
Oui, donc l'ambassade est bloquée. Donc l'ambassade ne fait que défendre les étudiants. Mais ça, en ce moment-là, comme nous sommes dans une crise qui vise tout le monde, c'est pour ça que l'ambassade prendra des dispositions à travers notre gouvernement. Mmh. Sinon, en réalité, en Tunisie, l'ambassade a droit à aider seulement que les étudiants ou alors les expatriés ou bien les diplomates. Mmh. Voilà la situation de la Tunisie.
D'accord.
Mais moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on est au courant de ça et où ça nous surprend de voir que l'ambassade ne peut rien pour les autres si ce n'est pas des étudiants. Si on est au courant de ça, pourquoi on s'y met? Et pour finir, peut-être que vous allez répondre, c'est que si tu n'as pas de papier, tu as des problèmes. Mais ceux qui ont des papiers, est-ce qu'ils sont obligés de rentrer et puis, où rester, et puis rester, et puis pouvoir sortir ceux qui n'ont pas les papiers.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire à notre État, au gouvernement, d'essayer de voir, à travers les ambassades, de parler réellement avec les Tunisiens. Parce qu'il y a des étudiants qui vont rester. Mmh. Mais si la peau noire est ciblée, quand ils restent, elle est sécurité. Mmh. Donc, il y a la sécurité de ceux qui doivent rester.
C'est ça.
Il y a des personnes aussi qui vont se faire soigner. Mmh. Mais du moment que déjà dans la tête des compatriotes, des Tunisiens, que la peau noire est visée, même les étudiants,
on ne va pas extrapoler non plus.
Comment on va pas extrapoler,
là-dessus, on n'est pas d'accord avec vous déjà.
Non, mais arrête.
Déjà.
J'arrive.
Parce que les faits sont là. C'est factuel.
Non, on va l'écouter.
Vas-y. Mais on peut contester quand même ce que tu dis.
Mais j'ai même pas encore argumenté. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Allons-y, mon cher Mendy.
On dit qu'il y a 2 cas de figure. Pour être sur le sol tunisien, il faut être étudiant. Moi, je connais plein de gars qui sont à l'université Sfax en Tunisie, qui ont fini leurs études, qui ont séjourné pendant 5 ans, qui ont fait leur diplôme d'ingénieur, qui sont revenus ici en bonne et due forme, qui n'ont pas eu de problème. Mm-hmm. On vous dit, et moi je pense que c'est une question également d'immigration, on vous dit, quand on est sur le territoire tunisien, on peut circuler pendant 3 mois. Quand vous dépassez 3 mois, vous vivez au noir, comme en France. Mm-hmm. Et en France, vous voyez comment les
mais en France, on vous permet aussi vous de faire des papiers.
Vous vivez de façon clandestine.
On n'a pas trop de temps, Armel, donc il faut raccourcir, s'il te plaît, tes questions.
Ils sont dans la clandestinité, en réalité.
Oui, mais...
Donc, à un certain moment, il faut qu'ils rentrent chez eux.
C'est pour ça qu'on doit les maltraiter comme des animaux.
S'il te plaît, l'invité va...
Voilà.
Allez-y, monsieur.
C'est une bonne question, ce qu'il vient de dire. Mais il faut dire que, comme vous avez pris l'exemple sur la France, mais en France, on permet aux gens d'avoir les papiers. Mais je suis en train de vous dire que ça fait 10 ans que je suis sur le territoire. Je suis un exemple. Avoir la carte de séjour n'est pas synonyme d'une sécurité en Tunisie présentement. Mmh. Deuxièmement, quand vous êtes dans un pays, il faut que le pays vous permette d'avoir les papiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que en Tunisie, il y a seulement le titre étudiant pour avoir la carte de séjour. Mais pour quelqu'un à qui on dit la Tunisie, il faut aller te chercher. Ou bien quelqu'un qui va en Tunisie pour quelque chose, qui reste, qui n'est jamais allé à l'école. Et comment étudier? Donc, il y a trop de choses.
Il
y a trop de choses.
Une toute dernière question, après ça on va terminer, parce qu'on sait que vous avez eu une conférence de presse tout à l'heure à 10h.
Bien sûr.
L'Union africaine s'est vaguement et laconiquement prononcée sur la situation, disant avoir fait appel au représentant permanent de la Tunisie au sein, en son sein, pour prendre acte et rappeler un certain nombre de principes, de valeurs de l'Union. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire ce matin?
Vous avez vu la relation de l'État tunisien lorsque l'Union africaine a fait sortir le communiqué.
Mm-hmm.
Ils ont tout de suite dit que ils disent pas ça. Et, vous savez, comme nous sommes sur une chaîne plateau, c'est ça. C'est ça. Et parfois,
non, aussi, mais disons les choses telles qu'elles sont.
Évitons de faire l'hypocrisie. Parce que quand vous dites des choses, quand il y a une irréalité, et lorsqu'on vous interpelle, il faut reconnaître cela. Mais aujourd'hui, nous avons vu des communiqués de l'État qui disaient que non, nous, on n'a pas dit ça, et on ne se reconnaît pas dans ce que vous dites.
Mm-hmm.
Vous voyez un peu. Pourtant, en réalité, ça existe. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'il faut que l'Union africaine essaie de mettre la situation de la Tunisie sur une table.
C'est ça.
Il faut qu'ils discutent réellement de la situation de la Tunisie.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, la Tunisie est devenue un endroit. Et c'est pour cela, aujourd'hui, tout le monde passe par la Tunisie pour aller par la Méditerranée.
Mm-hmm.
Mais il faut prendre des décisions. Si l'État tunisien essaie de revoir la situation de la CAD de séjour, ça va permettre aux gens de pouvoir se faire enrôler. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, on dit non, vous n'êtes pas identifié. Mais si une communauté étrangère doit se faire identifier, il faut permettre à cette communauté d'aller au poste de police. Mais les gens n'ont pas accès au poste de police parce qu'ils ne peuvent pas faire la carte de séjour, c'est difficile. Comment est-ce que vous pouvez les enrôler pour savoir combien de personnes sont sur le territoire? Et les frontières aussi, ce n'est pas nous qui gérons les frontières. Mais aujourd'hui, les gens rentrent chaque jour. Et quand ils rentrent, on dit non, les subsahariens, les noirs sont beaucoup. Mais comment restez-vous gérer vos frontières? Vous comprenez un peu? Donc, la question de la Tunisie, les États, l'Union africaine doivent revoir vraiment la question de la Tunisie. Parce que c'est une prison à ciel ouvert. C'est difficile pour les subsahariens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur Seri Soka. En tout cas, on espère avoir fait le tour de la question dans ce laps de temps, en tout cas, qu'on vous a accordé. Et tout à l'heure, vous donnez évidemment une conférence de presse pour encore davantage éclairer l'opinion publique nationale sur les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils se déroulent en Tunisie. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, de toutes les façons, on garde le contact. On vous appellera en cas de besoin, forcément, pour avoir évidemment vos avis toujours là-dessus. Merci et très très bonne journée
merci
à vous.
Merci beaucoup, merci.
Voilà, et puis on garde
merci aussi à l'AF TV parce que depuis le début, vous nous avez soutenus.
Je vous en
depuis
prie.
La Tunisie, les gens sont
prie.
Très reconnaissants.
Ah, en arabe, merci, en du quoi. En arabe. Vous avez fait 10 ans quand même, il y a un mot que vous avez
pas échappé. Allons-y rapidement.
Salam alaykoum, merci beaucoup.
Il n'a même pas envie de venir en Côte d'Ivoire.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?
En voiture, au boulot ou à la maison, reste à l'écoute de Life Radio 107.7. La radio, comme tu l'entends.